Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Oui, dans Historiquement vôtre, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. La preuve, s'il en fallait une. Hein. Voici Clémentine Portier-Kaltenbach.
Eh, hey, bonjour, monsieur.
Oyez, oyez.
Corbeau,
non, taillot,
pardon. Mais taillot,
vlou.
Ah non, faut dire ça de façon un peu plus virile.
Enfin, ah, bah, je remercie. Vlou.
Oui, c'est très bien.
Quelle
bravo, c'est mieux.
Stéphane, je suis désarçonné.
Ah, bah, ne soyez pas désarçonné parce que devant un sanglier, vous risqueriez d'avoir des problèmes.
En tout cas, tous les deux, hein, bande de gueux. Sous l'ancien régime, si vous aviez été pas joué-cuiller du roi de France.
Ah non, ça, on risquait. Pas, auriez... Nous, on mangeait les légumes par la racine.
Bah, hein. Sans doute, mais vous auriez vu passer le rouet à la chasse dans vos champs, hein, ou dans vous prêtez votre remise là où vous mangez des glands. Bon, enfin bref. Écoutez, bon, la chasse à courre aujourd'hui est très décriée naturellement,
oui,
mais le royaume
peu.
De France a longtemps été par excellence le pays de la vénerie. Et la vénerie, ça vient du latin venari, c'est le mot latin pour chasser. Donc ça désigne la chasse à courre. Et à quelques exceptions près, nos rois, depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XVI, ont chassé tous les jours, ou presque. Donc quand je vous dis que ça fait vraiment partie de l'intimité des rois de France...
C'était comme le golf pour Donald Trump.
À peu près, tous les jours. Moins le régicolor. Alors même Saint-Louis, roi très pieux, durant sa captivité à Damiette en Égypte, il achète une meute de chiens de Syrie. Ce sont des grands chiens gris dont la race, jusqu'à la Révolution française, fut l'orgueil des chenils royaux. C'est beau cette histoire, vous voyez. C'est les chiens de Saint-Louis qui vont commencer à créer cette tradition des chiens gris dans les chenils royaux. Et alors Philippe le Bel, par exemple, qui meurt à la suite d'une chute de cheval au cours d'une chasse. Charles VI, le roi fou. Il fait mettre sur ses armoiries deux cerfs affrontés. Et même Louis XI, qui était le plus radin de tous nos rois, quand il s'agissait de ses chasses, il devenait absolument munificent. Il se ruine pour faire venir un renne du Danemark et un élan de Suède, oui, pour les chasser, oui, oui. Mais le roi de France, qui fut surnommé le père des veneurs, c'est François Ier. Et c'est avec lui que la chasse à courre en France acquiert toute sa gloire, qu'elle devient chasse royale. Vieux et malade, je m'y ferai porter. Peut-être même que mort, j'irai encore dans mon cercueil, disait François Ier. Sa vénerie lui coûte 100 000 écus d'or par an. Alors je suis allée regarder, hein,
oui.
Ça fait 400 kilos d'or. Ça fait
non,
à peu près 400. Non, ça fait à peu près 24 millions de nos euros.
Et bon, enfin, c'est à peu près ce que coûtent les chasses de Chambord.
Vous croyez que ça coûte ça, c'est vrai, Stéphane?
Non, je sais pas,
non,
mais
ça coûte pas aussi cher que ça, quand même.
En tout cas, beaucoup de gens en profitent. Il y a un livre qui vient de sortir sur les chasses de Chambord, pas royales, mais actuelles.
Républicaine.
Tout le personnel politique. Hein.
Ah, bah bien
Monsieur
sûr.
Larcher
mais bien
pas
sûr.
Le dernier. Hein.
Bien sûr. En tout cas,
tiens, ça balance.
François Ier, lui, chassait avec 50 chiens, 50 archers, 50 chariots. Son fils Henri II, il dépensera encore davantage. Et alors, celui qui est très connu pour avoir été un fou de chasse, littéralement, c'est Charles IX. C'était un forcené de chasse. Il y a exposé 10 fois sa vie. Au retour de son voyage de noces, et comme il n'avait pas chassé pendant quelques jours, hein, puisqu'il se mariait, il oblige toute la cour à s'arrêter en pleine nature. On est en plein hiver, il fait un temps absolument glacial, l'endroit est désert, c'est pas grave, il oblige tout le monde à dormir dans les carrosses, et lui, il part courir le cerf dans la neige, il en prend 2 en 2 jours. Rien n'arrêtait ce frénétique, nous dit la chronique. Il accomplit un jour cette prouesse inouïe de forcer un cerf à la course, seul, sans chien. Une autre fois, il s'attaque seul à un sanglier à pied, on le croit perdu. Vous savez, dans le film La Reine Margot, il y a une scène magnifique où on voit Henri IV qui s'apprête à être assassiné, en fait, participe à une chasse avec Charles IX, et il lui sauve la vie en poignardant un sanglier, et du coup Charles IX n'ose plus trop le faire zigouiller pendant la Saint-Barthélemy, il a quelques scrupules. Alors Charles IX, fou de chasse, il s'est craché les poumons à sonner de la trompe, écrit le médecin du roi Ambroise Paré, et il nous a laissé un traité de vénerie qui est considéré comme un vrai chef-d'œuvre. Charles IX, qui était pourtant un roi un petit peu bizarre, roi suivant Henri IV. Henri IV, pensez à ça, dans une même journée, il court 2 cerfs, chasse quelques heures au vol, donc avec
5 courtisans.
Avec un faucon, ça c'est la nuit. Force un loup. Et pour terminer sa journée, il lance un dernier cerf qu'il poursuit jusqu'à la nuit sous une pluie torrentielle. Ce sont des fous de chasse, nos rois, et qui n'hésitent pas à s'exténuer dans cette discipline et en même temps à quasiment mano à mano avec le cerf, si j'ose dire.
Ouais.
Alors
il
bon, son fils Louis XIII, bon, alors c'était un moins grand chasseur, mais enfin, c'est lui qui fait construire un petit rendez...
Un petit relais de chasse
exactement.
À Versailles.
Voilà, c'est Louis XIII. Hein. Alors, c'est avec Louis XIV que la chasse devient institution d'État. Et dites-vous bien qu'à Versailles, les bâtiments consacrés au service de vénerie occupent une place 100 fois supérieure à celle où se réfléchissent les affaires d'État. Et la chasse est en plus un bon moyen d'occuper les seigneurs oisifs qui séjournent à la cour. Il y a chasse tous les jours. Il y a des meutes de chiens différents pour tous les gibiers. Meute pour les daims, meute pour les lièvres. On dit que si tous les équipages de chasse étaient réunis en même temps à Versailles, on verrait ensemble 900 ou 1000 chiens. Vous imaginez ça, hein, c'est dantesque. Alors Louis XIV, lui, était un excellent tireur. Il préférait la chasse au tiré que la chasse à cour, mais il s'imposait deux chasses à cour par semaine, l'une aux cerfs, l'autre aux sangliers. Donc, c'était en quelque sorte pour lui une règle d'hygiène.
Et il mangeait après ce qu'il chassait.
Bien sûr, c'est pour ça que tous ces messieurs avaient de la goutte, parce qu'ils mangeaient beaucoup trop de venaison. Et Louis XIV, le 9 août 1715, alors qu'il meurt le 1er septembre, est encore à la chasse. La princesse palatine, grande fanat de chasse, elle disait « Moi, j'ai pris plus de 1000 cerfs ». Un jour, elle voit un gars apeuré parce qu'il y a un cerf qui passe dans les bois. Elle dit « Mais c'est de la rigolade ». Elle est tombée de cheval 30 fois dans sa vie. Le fils aîné de Louis XIV, le grand dauphin, lui, chassait avec fureur. En un hiver, il force 90 loups. Et un jour, en 1648, il chasse...
Il ne mangeait pas le loup, quand même.
Alors, le loup, non. Mais un jour, en 1648, il chasse un loup près de Versailles et ça le conduit à 48 km de là. Une autre fois, il se retrouve à Rennes.
Ils ont tellement tué que maintenant, on est obligé de les réintroduire.
Eh bien, voilà, c'est ça. Alors bon, la monarchie touche à sa fin. Louis XV sera un chasseur frénétique, lui aussi. C'est lui qui demande à Oudry de réaliser des magnifiques tableaux de chasse. La chasse est très importante. En 1725, il fait à cheval trois fois la distance Paris-Moscou en coursant des cerfs et des sangliers. Fatalitas, comme disait Chéri Bibi. Son cercueil sera hissé sur une calèche de chasse qu'on ne prit même pas la peine de peindre en noir. Enfin, évidemment, citons le fameux journal de chasse de Louis XVI sur lequel, au 14 juillet, est indiqué rien. Voilà, rien, donc mais... on a dit qu'il ne se rendait pas compte qu'il se passait des choses. Mais il n'avait rien pris.
Il était maladroit.
Après quoi, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, la chasse allait cesser d'être un privilège aristocratique. Et en tout cas, je conclurai cette chronique en évoquant une très ancienne tradition de la vénerie. Dans les grandes heures de la monarchie française, le jour de la Saint-Hubert, on décorait d'une rosette rouge le plus vieux piqueur, le plus vieux cheval et le plus vieux chien. Or, le plus vieux cheval, le plus vieux piqueur et le plus vieux chien de cette émission, j'en ai peur, messieurs, c'est moi. Alors j'attends ma rosette bleue aux couleurs d'Europe 1. Allez, taillot, taillot, taillot. Oh, c'est beau.
C'est plus que beau, c'est divin, ça nous transporte ailleurs.
Ah oui, mais vraiment,
Stéphane, on regrette vraiment l'ancien régime parce qu'il passait quand même beaucoup de temps, visiblement, à chasser, plus de temps à chasser qu'à gouverner quand même.
Oui,
c'était une méthode gouvernement, mais c'est vrai qu'on avait de la goutte.
Oui, c'est pas terrible.